Jean-Yves Masson, c'est une voix et un visage familier pour le banquet. On le remercie de sa présence amicale à chaque rendez-vous important. Je te laisse la parole avec Michel Volkovitch. Mais
comme vous voyez, je ne suis pas seul à cette table et c'est parfaitement normal parce que je ne me serais pas vu faire une conférence sur la poésie grecque et puis lire, puisque c'est ce que je vais surtout faire, parler de poètes ou lire des traductions sans la présence du traducteur à qui je dois d'énormes lectures, et je voudrais bien que ce soit pour lui aussi l'occasion de parler de ses entreprises éditoriales, parce que défendre la poésie grecque en France et en langue française comme le fait Michel Volkovitch depuis des années, c'est difficile et ça demande beaucoup de courage. Alors c'est ce courage et puis cette constance dans la pratique de la traduction que j'ai salué plusieurs fois. C'est peut-être la seule raison pour laquelle j'ai accepté de vous parler de poésie, c'est que je n'ai pas, je ne suis pas un spécialiste de la Grèce, je l'aime, je la connais, mais beaucoup moins que les gens qui se consacrent à sa littérature. Simplement, j'ai la chance depuis pas mal d'années maintenant de faire de la critique, de croire encore qu'il est possible de faire de la critique de poésie. Je l'ai fait à la Quinzaine littéraire pendant longtemps, à Europe aussi un peu, et puis depuis un peu plus d'une dizaine d'années au magazine littéraire. Et chaque fois que dans le magazine littéraire j'ai pu parler de poètes grecs, je l'ai fait, pas seulement grecs d'ailleurs, parce que traduire la poésie, la donner à lire, c'est un défi enthousiasmant, mais il faut bien se rendre compte, je le fais avec une conviction qui dépasse simplement le cas de la Grèce, qui est que ce qui se passe de vraiment important dans une langue se passe d'abord dans la poésie. Bien sûr, c'est la plus invisible, c'est ce qui se voit le moins. Le roman occupe toujours la première place, mais la vie des langues, leur vie secrète, cachée, mais fondamentale, se déroule dans la poésie. Quand on se souviendra de notre époque, sûrement on citera des romanciers, je dis notre époque pour nous, la France, on citera certainement des romanciers, je le pense. Et enfin, la deuxième moitié du XXe siècle en France, ce sera peut-être davantage le demi-siècle d'Yves Bonnefoy, de Philippe Jacotet, de quelques autres, au moins autant, et peut-être que ce sera plus que des romanciers. Alors, sur le moment, la poésie est invisible, peu visible. Elle ne devient vraiment visible et vraiment lue que dans les périodes de drames, de tragédies historiques. Les seuls pays où la poésie est largement lue sont des pays en situation de crise historique, parce que peut-être les peuples ont la conscience obscure, cachée, que quand tout va mal, c'est vers les poètes qu'on se tourne d'abord. Donc le dernier moment où la poésie a vraiment été largement lue en France, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être qu'il ne faut pas souhaiter que ça revienne, mais si on regarde l'Europe d'aujourd'hui, les pays où les poètes sont au premier plan sont des pays qui font face à une crise. Et si les Grecs se sont reconnus dans la poésie au XXe siècle, bien sûr, et même bien sûr au XIXe siècle, c'est d'abord parce que c'est un peuple où la poésie, on va en parler tout de suite, est une réalité quotidienne, vivante. Mais c'est aussi, bien sûr, parce que ce sont des poètes qui ont été les porte-parole de la résistance, des résistances à la dictature, au totalitarisme. Et ça, on l'a bien perçu en France. C'est pour ça qu'on ne reviendra pas ici sur des personnalités fondamentales comme Yanis Ritsos, qui a été largement traduit, même si il reste encore des choses à traduire, qui sont en train d'ailleurs d'être traduites. Les poètes de la résistance ont été extrêmement importants, et encore il y a une trentaine d'années, quand on allait même dans des bureaux de tabac sur des îles grecques, on voyait en vente, non pas des romans, alors c'est fini malheureusement, mais il y a une trentaine d'années, on voyait, je me souviens d'avoir vu dans des bureaux de tabac ou dans chez des marchands de journaux, en vente des recueils d'Elitis, de Ritsos, les poèmes de Séphéris. Ces poèmes étaient là. Et il y a aussi une raison qui explique la popularité de ces poètes, le rayonnement de la poésie en Grèce, c'est qu'il n'y a pas dans la culture grecque, et je pense qu'avec ce qu'on a dit ce matin, on le comprend d'autant mieux, de coupure entre la culture savante et la culture populaire, mais que, par exemple, en Grèce, des chanteurs peuvent très facilement, beaucoup de chanteurs chantent sur des textes empruntés à de très grands poètes. On peut entendre du Elitis, du Séphéris, des poèmes d'Engonopoulos, d'Embirikos, chantés par des chanteurs tout à fait populaires. Et ça, c'est une chose à laquelle nous ne sommes pas habitués en France. Il y a bien eu quelques tentatives en ce sens dans les années 50, 60, mais aujourd'hui, vous allumez une radio, les choses qu'on entend à la radio ne sont pas des textes de grands poètes. On ne peut plus imaginer un tube de l'été sur un poème de Ronsard. On devrait, mais enfin, c'est impossible. Et peut-être parce que notre culture s'est constituée de manière différente, elle s'est constituée avec une. Elle est venue du haut, elle est venue d'une culture beaucoup plus aristocratique, peut-être. Mais en tout cas, peut-être qu'on peut commencer par là, par cette question, puisque tu as traduit non seulement les auteurs, mais aussi beaucoup la poésie populaire, et que peut-être on peut expliquer par cette espèce d'absence de coupure radicale entre culture savante et culture populaire, la place que la poésie occupe en Grèce aujourd'hui, aujourd'hui encore un peu moins peut-être qu'il y a 25 ou 30 ans, mais peut-être qu'avec la crise, justement, c'est ce qu'il semble, la poésie, les poètes reprennent la parole, reviennent au premier plan.
Tout à fait, et je suis très heureux que tout à l'heure, ce matin, on ait évoqué les Dimotika Tragoudia, les chants populaires, qui sont un vrai trésor, non seulement ethnologique, historique, mais poétique, avec des choses tout à fait étonnantes, des images frappantes. Et je me permets de signaler qu'il en existe en traduction française, et il existe un large choix paru chez Gallimard il y a assez longtemps qui est épuisé, et personnellement j'ai publié aux éditions Alidad deux petits recueils, l'un de chants de mort et l'un de chants d'amour, que malheureusement je n'ai pas apporté parce que j'étais polarisé par le présent et par la crise, mais ils existent et ceux que ça intéresserait pourraient non qu'à venir me consulter. Ce qui me frappe beaucoup, c'est en effet la popularité, la familiarité qu'ont les Grecs avec leur poésie. Un petit exemple anecdotique, je suis dans les salons de l'hôtel Megali Vretani à Athènes avec la poétesse Kiki Dimoula pour travailler, et elle est reconnue par une jeune femme du personnel qui s'approche, qui dit « Madame Dimoula, comme je suis heureuse de vous rencontrer ». On ne peut pas imaginer Yves Bonnefoy reconnu dans la rue à Paris. Voilà,
peut-être un peu plus.
Ça dépend des quartiers. Alors, quant à la popularité de cette poésie, il y a un très bon exemple, c'est Nikos Kavadias, le poète marin, dont les poèmes sont connus et aimés pratiquement de tous les Grecs, sauf peut-être des rédacteurs d'histoire de la littérature comme Politis Dimaras et compagnie, qui l'expédie en trois lignes, mais tous les autres Grecs, depuis les gens du peuple jusqu'aux lettrés les plus pointus, font leur délice de ces poèmes en vers qui ont été mis en musique merveilleusement par certains, dont Mikroutsikos par exemple. C'est des choses qui se trouvent sur Internet aussi.
On peut d'ailleurs dire pour Alidad qu'on peut regarder sur Internet aussi. Il a un site, je crois.
Je ne sais pas s'il a les chants populaires grecs in extenso sur...
Non, pour les lire, pour les commander.
Pour les commander, voilà.
Alors, on parle d'entreprises éditoriales comme Alidad, justement. Voilà, j'ai amené... Je n'ai pas tout pris avec moi, voilà, mais je voulais montrer ces merveilleux livres de couleur bleue pâle. Que j'ai eu la chance de recevoir pour la plupart grâce à la gentillesse de Michel, mais aussi d'acheter à la librairie Desmos. Il y a eu d'abord une entreprise éditoriale totalement indépendante que tu avais lancée, les cahiers grecs, et puis après c'est venu avec la librairie grecque de Paris. Il me semble que c'est dans cet ordre-là.
Tout à fait, oui. Voilà. J'ai été longtemps très, très privé de débouchés éditoriaux. En 95, j'ai décidé que la seule façon de s'en tirer, de faire connaître ces poètes, c'était de les publier moi-même. Donc la première étape a été tout à fait artisanale. Ça se passait chez le photocopieur du coin.
Voilà.
Et, Des feuilles volantes,
des feuilles
même sans relure. Et j'ai été repéré par le libraire grec de Paris, Desmos, et l'année suivante, il m'a proposé une coédition. Et donc, nous avons construit ensemble, pendant 5 ans, toute une collection avec des livres, donc de véritables livres reliés. Bilingue d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, et beaucoup plus cher que ce que j'aurais souhaité, mais bon, il y a des nécessités commerciales.
Voilà, alors ces livres, on peut toujours se les procurer, pour beaucoup, ils ne sont pas tous épuisés, à la librairie Desmos, près de la gare Montparnasse, à Paris.
Voilà.
Et évidemment, ça a fini par se voir, on peut dire, parce que quand même, il y a eu des échos. Et alors, je me souviens que tu as eu le prix Nelly Sachs pour la traduction de Dinos Christianopoulos, on va en parler tout à l'heure, pour ce merveilleux livre qui s'appelle « Le temps des vaches maigres ». Je t'ai prédit qu'on retrouverait tes traductions en poche. C'était en 1995, je crois,
96. Oui. Vous avez là mon plus ardent défenseur,
oui.
Le défenseur par-delà ma petite personne de toute la poésie grecque.
Et donc on a eu le bonheur en l'an 2000 de voir paraître, mais évidemment le temps passe, 14 ans plus tard, il y a des tas de choses à rajouter, on va en parler, une anthologie de la poésie grecque contemporaine en poésie Gallimard. Dans cette collection, avec une quarantaine de poètes environ.
40 poètes, 40 exactement.
Exact, oui. 40 exactement. Ouais. Voilà. Alors, évidemment, on va dire, ils n'y sont pas tous, mais beaucoup de choses viennent de ces cahiers grecs. Mm-hmm. Évidemment, c'est un choix, et c'est, me semble-t-il, je le conseille à tous mes étudiants, le meilleur moyen de rentrer dans la poésie grecque d'aujourd'hui. Moi, j'y ai fait de grandes découvertes. Et je voudrais qu'on le parcourt un peu. Alors évidemment, tout ce que je peux faire, c'est lire des poèmes, mais je te demanderai d'en lire quelques-uns en grec, si tu veux bien, puisqu'il y a le texte ici.
Ce soir, on improvise.
La musique. Voilà, mais oui, mais c'est bien parce que c'est
justement. Je suis prêt à tout.
L'amitié,
à la grâce, il faut s'attendre à tout.
Mais oui. Je voulais seulement commencer par un auteur qui n'y est pas, et d'ailleurs Jacques Lacarrière dit que dans sa préface, parce que c'est Jacques Lacarrière qui avait fait la préface, qu'il regrettait son absence, parce qu'on en a parlé hier, c'est Nanos Valaoritis, qui est aujourd'hui, on peut dire, je pense, le doyen de la poésie grecque, puisqu'il a 95 ans. Et il n'est pas du tout réduit au silence, puisque dans la crise récente, il a fait entendre sa voix, ses protestations, et une nouvelle fois, je dirais, parce qu'il a quand même traversé, il est né en 1919, donc il avait 3 ans lors de la catastrophe de Smyrne, hein. Il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, il a vécu la guerre civile, il a vécu la dictature des colonels, le retour à la démocratie, et à chaque fois, dans son œuvre, il a passé très longtemps hors de Grèce, hein. Il a vécu aux États-Unis, si je ne me trompe, en exil, en France aussi, il me semble, un certain temps.
Oui.
Je ne connais pas très bien sa vie, mais je sais que récemment encore, il a fait entendre, en tant que témoin, par l'histoire et par la poésie, son indignation face à l'état actuel de l'Europe et de la Grèce.
C'est un admirable vieil homme indigne et indigné.
Voilà. Et moi, il me fait penser parce qu'il pourrait être très officiel et il ne s'est pas laissé acheter par les récompenses. Alors, j'ai juste amené un début de poème de lui, mais simplement. Alors, donc, ce n'est pas ta traduction. C'est une traduction qui est parue à l'Harmattan en 2007 de Gérard Augustin. J'ai choisi ce poème qui s'appelle Le baluchon de l'expatrié. C'est juste le début. C'est parce qu'il me semble que ça résonne bien avec ce qu'on a dit depuis la conférence inaugurale de René Boucher hier sur la division, la blessure, et ce qu'on redira sûrement demain aussi en dialoguant avec Yanis. Voilà, pour faire entendre un peu la voix en français, de Nanos Valaoritis, le baluchon de l'expatrié. J'ai été blessé par les voix des Grecs. J'ai été blessé par les voix des sirènes. Ils me suivent de leurs yeux vigilants nuit et jour, les Ulysse. Ils me hantent avec leurs mensonges. Les souvenirs me harcèlent comme des vêtements suspendus à une corde. J'ai été blessé par le nouveau monde et par l'ancien. Ils ne m'ont pas donné de corde où étendre mes sentiments. Mes sentiments sont encore tout trempés par ce temps pluvieux. Je voudrais aller quelque part, mais je ne sais où. Depuis que je ne suis plus ni en Occident, ni en Orient. Devant moi, le soleil se lève et derrière moi, il se couche. De quelle façon ai-je été réduit ici à l'état de pourceau dans l'île de Circé? Comment ai-je fini par devenir Elpénor châtié qui, en tombant, se brisa le crâne dans le grenier de sa maison? C'est un poème beaucoup plus long, j'ai juste lu le début, je le trouve magnifique. Et on voit bien, déjà, peut-être, chez un poète de cette génération, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais comment le discours sur le moment quotidien, le monde d'aujourd'hui, se nourrit de références au mythe. Hein, et c'est cette présence du mythe qui est très, très frappante, toujours aujourd'hui, dans la poésie grecque, jusque chez les auteurs les plus récents. Si je les prends dans l'ordre, je dirais, d'âge, je vais juste te demander de parler un petit peu de Titos Patrikios, que j'aime énormément, qui est né en 1928, lui, donc 10 ans de, environ 10 ans de moins que Valaoritis, et que je trouve un extraordinaire auteur. Alors peut-être, parce que tu le connais beaucoup mieux que moi, nous en dire quelques mots, en attendant que je lise quelques textes qui me paraissent bien révélateurs.
En deux mots, Patrikios, en grec, ça veut dire patricien. Onomake prama, disent les Grecs. C'est-à-dire que ce nom le dépeint parfaitement. C'est un aristocrate, il a la classe. C'est un homme qui est né dans une famille riche, aisée, et qui pourtant a fait des choix extrêmement courageux pendant sa jeunesse, puisque... Il s'est engagé à gauche, il a connu les camps, il a failli être exécuté. Et sa poésie s'est nourrie de ses épreuves, avec toujours une extrême dignité, une extrême lucidité. Et c'est quelqu'un dont on sent qu'il ne cesse d'apprendre. C'est pour ça que j'ai donné au recueil le titre d'apprentissage. Voilà, c'est une poésie, c'est pas une poésie journal, c'est toujours extrêmement écrit, mais c'est une poésie qui décrit le parcours d'un homme qui essaye sans cesse de devenir meilleur. Et c'est globalement très impressionnant, et en détail aussi, il y a des poèmes qui sont de petits joyaux. Toujours avec une extrême simplicité, c'est court, c'est bref, il y a tout.
Alors justement, je voulais lire deux poèmes simplement, mais que je trouve très, très beaux, puis tu me diras si j'ai bien choisi. Et peut-être le premier, tu pourras le lire en grec, « Iglossamou », ma langue, parce que je pense que ça... Comme on a eu un débat tout à l'heure sur la question de la langue, je pense que ce qu'il dit entre en parfaite résonance avec ce que disaient Thanasis Hatzopoulos et Yanis Kyrtsakis tout à l'heure. Ma langue. J'ai eu du mal à préserver ma langue parmi celles qui viennent l'engloutir. Mais c'est dans ma langue seule que j'ai toujours compté. Par elle, j'ai ramené le temps aux dimensions du corps. Par elle, j'ai multiplié jusqu'à l'infini le plaisir. Par elle, je me rappelle un enfant et sur son crâne rasé la marque d'un caillou. Je me suis efforcé de ne pas en perdre un mot, car tous me parlent dans cette langue, même les morts. Tu nous le lis en grec ?
η γλώσσα μου. Τη γλώσσα μου δεν ήταν εύκολο να τη φυλάξω ανάμεσα σε γλώσσες που πήγαιναν να την καταβροχθήσουν. Όμως, στη γλώσσα μου συνέχιζα πάντα να μετράω. Στη γλώσσα μου έφερνα το χρόνο στα μέτρα του κορμιού. Στη γλώσσα μου πολλαπλασίαζα την ειδονή ως το άπειρο. Μ' αυτή ξανάφερνα στο νου μου ένα παιδί με άσπρο σημάδι από πετριά στο κουρεμένο του κεφάλι. Πάσχιζα να μην χάσω ούτε μία της λέξη, γιατί σε αυτή τη γλώσσα μου μιλούσαν και οι νεκροί. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental, les morts qui parlent. Voilà. Je dirais que la Grèce est peut-être le pays où les morts sont le plus vivants. Et dans beaucoup de poèmes grecs de toutes époques, on a ce dialogue impressionnant avec les morts, cette familiarité avec eux, qui n'a rien de macabre. Ils sont vivants.
Ça sera peut-être un de nos fils conducteurs. Il y a un autre poème que je voulais lire, puis j'en ferai un petit commentaire après. Ce sont les sept dormants. Qui renvoie à une légende très belle qui raconte l'histoire de sept jeunes gens au IIIe siècle, chrétiens, qui sont persécutés et qui obtiennent par la prière la grâce, plutôt que de renier leur foi, de s'endormir dans une caverne. Et ils dorment deux siècles jusqu'à ce que la foi soit rétablie. Et là, ils sont devenus un peu l'emblème d'une sorte de pouvoir mystérieux de résistance par l'invisible, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans une caverne, ils se réveillent et ils ont le droit de se... Enfin, ils sont les témoins de la grâce. Alors, je trouve absolument magnifique ce poème sur les sept dormants, voilà, que je vais vous lire, et après je ferai un tout petit commentaire. À la lueur de la lune qui recouvrait l'île, comme si s'était rouvert le volcan disparu, nos mains se changeaient en pieuvres, cherchant des corps proches et hors d'atteinte, avant de se perdre dans leurs creux obscurs, doigts blancs, tentacules blancs, jointures blanches, les mains tentaient de retenir dans leurs paumes humides la forme de ton corps qui changeait toujours, et toi-même changeais, tu n'étais plus toi, tu étais les sept femmes que j'ai aimées, en moi et moi j'étais les sept jeunes gens dormants, sept fois martyrs et sept fois morts. Dès que j'étends les mains pour te toucher, je trouve la mer, les pierres, la lune qui existent au-delà de nous et nous ignorent, comme tout le monde ignore que des années plus tôt, on m'a enterré dans la cour de cette église déserte, oubliée. Alors, ce que je trouve très beau dans ce texte, c'est cette thématique d'abord de la mort, hein, et de l'invisible aussi. Il y a une chose qui m'a frappé dans la poésie grecque contemporaine, et en tout cas dans ce qui était cité hier, mais malheureusement c'est passé trop vite pour que je me souvienne de la citation exacte, où quelqu'un, on citait un texte, malheureusement j'ai pas pu le noter, on disait la Grèce existe sous les pierres, sous les pavés des rues. Et qui disait ça? Je ne me souviens plus, c'était cité hier. C'était le poème de Pascalis, hein, c'est ça. Oui. Et alors, ça m'a fait penser, enfin, à ça, c'est-à-dire l'idée que quand on est dans une situation comme celle d'aujourd'hui, il y a une Grèce invisible, il y a une Grèce qui se cache, qui se cache derrière la Grèce visible. Ça me fait toujours penser à cette légende russe de la ville de Kitej, qui pour échapper là aussi aux envahisseurs obtient la grâce de devenir une ville invisible. Et bien c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la vraie Grèce en quelque sorte, bon, comme les sept dormants dans leur caverne, enfin, il me semble que dans ce vers de Pascalis qui était hier, j'étais pas sûr que ce soit lui, il y a cette idée là, c'est-à-dire de quelque chose qui mène une vie cachée, comme si peut-être c'était dans les poèmes qu'on peut vraiment l'entendre. Ça te parle?
Dans la poésie, il y a beaucoup de choses invisibles ou peu visibles. Mmh. Justement, c'est ça qui nous fascine en elle. C'est que sa parole est quelquefois claire, mais le plus souvent, quand même, chargée d'obscurité et pleine de sens qui finiront peut-être par apparaître. Mais on sent qu'il y a une richesse cachée, c'est sûr.
Mmh. Alors, j'ai retenu aussi, il y en a tellement, mais je voulais qu'on dise quelques mots de Christophoros Liondakis, qui d'ailleurs, ça va être l'occasion d'un pont, hein, puisqu'il est dans les anthologies, les 6 anthologies que tu prépares, si je ne me trompe.
C'est lui qui fait l'ouverture.
Voilà, c'est lui qui est le premier. Alors, ce sont des anthologies, je les ai apportées, hein, voilà, les 2 premiers tomes, Poète grec du 21e siècle. Ça sera 6 séries de 10 poètes, hein, quand tu nous l'as présenté hier, mais je le redis, avec à chaque fois un grand ancien au début, hein, quelqu'un, enfin un ou deux.
Il y a 5 poètes consacrés et 5 plus jeunes.
Et 5 jeunes, voilà. Et ils sont dans l'ordre de leur date de naissance. Et Christophoros Liondakis, pour des textes beaucoup plus récents, figure dans le premier volume donc, de cette anthologie qui est publiée par... ta maison d'édition qui s'appelle Le Miel des Anges, du titre d'un roman que tu as traduit.
Oui.
Chez Albert Michel, on peut le dire.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est un vol. Ouais. Un roman étonnant d'un certain Vangelis Katsianidis, un roman contemporain, il y a 10 ans.
Voilà, que j'avais beaucoup aimé.
Oui. Voilà. D'ailleurs, il a eu le prix Laure Bataillon, ce roman.
Voilà. Alors Liondakis, c'est vraiment un grand poète. Je voulais surtout attirer l'attention, pour moi en tout cas, sur le parce que justement je l'ai découvert ainsi, sur cette traduction que tu as faite, qui doit être un peu difficile à trouver, de La roseraie aux gendarmes, étrange titre, mais qui au fait est pour moi un seul poème, et que je trouve d'une beauté sidérante, vraiment magnifique. Alors je vais. Et toi-même, tu dis que ce sont des poèmes qui t'ont posé des problèmes de traduction très très grands, mais que à cause de leur densité, de leur intensité.
Tout à fait. Oui. Je suis très touché que tu aies choisi Christophoros Liondakis, parce que c'est un poète tout de même difficile, c'est mon contemporain, disons, et il y a tout un compagnonnage avec lui. J'ai commencé par lui
il est né en 1945.
Ans. Voilà, donc 2 ans avant moi, et ça fait 30 ans que nous travaillons ensemble main dans la main. C'est un poète fascinant qui dont la poésie est d'une densité extrême, d'une concision qui la rend souvent assez obscure, mais il y a une magie là-dedans, un petit peu comme chez notre Mallarmé. C'est quelqu'un qui se réclame énormément d'Yves Bonnefoy et qui a traduit beaucoup de gens, beaucoup de poètes du français, y compris donc Bonnefoy et Mallarmé. Et voilà. La roseraie aux gendarmes, en effet, c'est peut-être le recueil le plus complet. C'est un long poème.
Il a une unité extraordinaire.
On
a l'impression que chaque poème est un peu une strophe d'un seul et même poème. Et alors, oui, obscur, mais les notes, je dois dire, à la fin, sont extrêmement utiles.
Oui, il faut s'imprégner.
Parce que ce n'est pas une recherche d'obscurité, ce n'est pas un
hermétisme. Non, pas du tout.
C'est simplement une densité d'images extrême qui crée cet effet-là.
Tout à fait.
Et donc, ce sont des poèmes qu'il faut relire. Alors, je vais quand même en lire 3 qui me touchent particulièrement.
Un mot avant ta lecture pour éclairer peut-être un peu la thématique. La roseraie aux gendarmes, c'est évidemment frappant. La roseraie, ça représente l'enfance, l'innocence, la nature. Pas l'innocence. Le naturel permet tout chez Liondakis. Donc l'enfance est du côté de la transgression, du désir, du plaisir. Et puis de l'autre côté, il y a les gendarmes, la répression.
Voilà, et on sent bien...
C'est une opposition constante.
Voilà. C'est un poème qui date de 1987. Mmh. Il y a 39 poèmes, et je suppose que ça n'est pas un hasard, mais évidemment, je n'ai pas décrypté. On sent bien chez lui qu'il y a ce genre de qu'il est très sensible à l'organisation des recueils.
Oui, on peut penser que ce n'est pas
un
hasard.
Mais évidemment, c'est à creuser. Oui. Le troisième poème. Dans un jardin ignoré, le printemps se sert de nous. La neige encore, et tandis qu'il t'envoie, tu rayes la porcelaine du mythe, blessant tendrement le temps qui devait exalter le dérisoire. Des givres de mars, la lumière à jouissance, les eaux ancestrales fleurissent, nos enfances, avec des cris, se rencontrent. Le sixième poème qui fait allusion, et la note le rappelle opportunément, au fait que dans le mythe du Minotaure, les Athéniens envoyaient chaque année 14 jeunes gens, 7 garçons et 7 filles, pour être dévorés par le monstre. C'était le tribut envoyé par Athènes. Semblable, en arrivant, tu dois inscrire dans le métal de Mars le corps du mythe. Que se mélangent temps et lieux, que la sève des siècles circule, qu'au-delà de la lumière tendrement sur le voilier se reflètent les 14 sans l'équipage. Semblable, en arrivant, tu représenteras l'un des 7 en sa descente vers le rivage où la foule attend, poussant la langue vers l'ubris. Et un dernier poème, c'est juste pour donner un échantillon, là aussi avec une note fort utile, puisqu'il est question dans ce poème de l'échange des populations, et qu'il s'agit bien sûr du souvenir de cet épisode qu'on rencontre souvent évoqué dans la poésie grecque jusque dans la poésie contemporaine, des échanges de populations entre Grèce et Turquie, puisque les Grecs ont été expulsés d'ailleurs du pourtour méditerranéen après ce qui s'appelle en Grèce la catastrophe, c'est-à-dire la perte de Smyrne. Et à l'inverse d'ailleurs, les Turcs de Grèce ont quitté pour une grande partie la Grèce pour retourner en Turquie, même si le nombre d'un côté et de l'autre n'était pas le même. Brillant par-dessus l'échange des populations, nos enfances troubleraient les oublieux, et tous ceux qui, tournant les pages de la chronique, ont négligé les mots dans la marge et le cheval à genoux dans la cour. Nuit tombante avec pluie, sur les branches de l'olivier, le cavalier doit déposer la statue pour chercher du vin et laver de son cheval la blessure. Ce sont des poèmes d'une extrême économie, mais où l'on sent tout le poids de l'histoire grecque qui se concentre dans une enfance, dans une vie.
Il y a un vers admirable là-dedans, c'est que la sève des siècles circule. On pourrait gloser très longtemps là-dessus, enfin, on voit le sens général. Il y a dans cette poésie grecque toujours une circulation entre les époques, une sève nourricière. Ce qui est remarquable, ce qui est émouvant chez Liondakis et chez Michaelis Ganas par exemple, qui est son contemporain, c'est la coexistence entre les souvenirs d'enfance, de nature. Ce sont des gens qui sont nés dans un milieu campagnard, l'un en Crète, l'autre en Épire. Ils sont hantés par ce milieu naturel de leur enfance, et c'est peut-être la dernière génération grecque qui ne soit pas née dans le monstre athénien. Et en même temps, dans leur poème, on a le dialogue et l'affrontement souvent entre cette enfance toujours présente, ce paradis perdu, et puis la réalité contemporaine, le quotidien noir, sombre, chaotique.
Alors un autre poète que j'aime infiniment, même si sa voix s'est tue depuis longtemps, c'est Dinos Christianopoulos, qui est devenu un homme important des lettres grecques, puisqu'il a, comme critique littéraire, animé, régné, peut-être presque on peut dire, sur le milieu littéraire de Thessalonique. Il est né en 1931, il ne publie plus de poésie, enfin toute sa poésie a été écrite à peu près jusqu'à l'âge de 35 ans, et après plus rien, enfin on ne sait pas après tout, mais il semble que l'œuvre soit close. Mais par contre il ne s'est pas assagi, parce que j'ai vu qu'en janvier 2012, il avait encore refusé le Grand Prix National des Lettres Grecques, en renvoyant à un poème qu'il avait écrit en 1977 qui s'intitulait Enadio, j'espère que je ne prononce pas trop mal, contre, et qui commence par cette phrase: je suis contre les récompenses parce qu'elles amoindrissent la dignité humaine. Donc il a refusé les prix, et en même temps son œuvre est d'une extrême beauté aussi, par le choc, le heurt des temps, parce qu'il pourrait passer pour un héritier de Cavafy. Ça paraît assez clair par les thèmes. Alors, vraiment, pour moi, c'est un très grand poète. Je l'ai vu une fois dans ma vie, je n'ai pas osé m'approcher. Mais vraiment, je pense que... Alors, sa poésie, on peut dire, au fond, quand tu as publié Le Temps des Vaches Maigres, ses recueils suivants sont de moins en moins lyriques, hein, se resserrent de plus en plus.
Il a commencé à l'âge de 20 ans par ce recueil, Le Temps des Vaches Maigres, très, très lyrique, avec des poèmes relativement longs, avec une espèce d'épanchement. Et puis, petit à petit, il s'est complètement recroquevillé, desséché. Mais ce sont des mots péjoratifs.
Non,
il
moi
faudrait
je dirais,
pas,
voilà.
faudrait pas. C'est, il s'est resserré, disons. Les poèmes ont été de plus en plus courts.
Très elliptiques.
Et les recueils de plus en plus minces, les vaches de plus en plus maigres, jusqu'au silence final.
Alors je voulais lire un poème que je trouvais très beau, qui s'appelle « La mort donnant », qui montre bien sa référence à la Bible et la façon dont il détourne des références comme celle-là. Et aussi parce que je crois que c'est dans ce poème qu'il y a l'explication du titre du recueil, « Le temps des vaches maigres ».
Je ne me souviens pas.
Ma dépravation, je la paye. C'est Onan qui parle. Ma dépravation, je la paye très cher par la mort. Dans mes yeux tuberculeux, qui reconnaîtrait le jeune homme, une rose à la poitrine, qui hantait les sorties des ateliers, ne ratait pas un défilé, et dans la foule des stades, attendait comme un don divin la cohue. Ma dépravation, je la paye très cher par la mort. Maintenant, j'irai moi aussi vivre au pays de Goshen. Ensuite, je me ferai muter dans la capitale, brisant toutes les barrières de la morale bourgeoise pour un instant d'abandon. Joseph, mon doux Joseph, gloire et beauté de l'Égypte, souvent l'oncle Ruben me parlait de toi. Joseph était, disait-il, très beau de corps et de visage. Et moi qui décorais ma cabane de ces étranges roses du plaisir, sans courant électrique, rien que des chandeliers. Moi qui cherchais ton regard dans le regard de Benjamin, partageant mon cœur en parts égales de tendresse. Je meurs dans ta tunique sans tache, souillée par le chant d'un chevreau en ton dernier été à Canaan. Et mon frère, en ce temps de vaches maigres, nous n'avons pas de Joseph. Il n'y a pas pour nous de Joseph libérateur, maître du corps et de la pensée. Et mon frère, erre mon frère, écris-lui, toi qui sais, parle-lui de moi, quand les lilas fleurissent, quand la nostalgie me tourmente, j'écoute souvent le Caire à la radio pour ses discours, je meurs dans sa tunique souillée, plaisir ultime. C'est un poème que je trouve d'une extraordinaire intensité. Et un autre, peut-être simplement pour donner envie de lire, c'est Marie-Madeleine qui parle. Bon, on la connaît, Marie-Madeleine. Il m'a frappé dès le premier coup d'œil, je courais à tous ses sermons. J'avais un terrain de ma tante et je l'ai vendu pour le suivre. Et quand j'ai eu tout dépensé, j'ai décidé de vendre aussi mon corps. D'abord aux gens des caravanes, ensuite aux publicains. J'ai couché avec des Romains, des têtes dures. Et quant aux pharisiens, je les connais un peu. Mais dans tout ça, je n'oubliais pas ses yeux. Pendant des mois, pour lui, j'ai cavalé du port au temple et de la ville au mont des Oliviers. Monsieur le parfumeur, s'il vous plaît, baissez un peu pour moi vos prix. Ce vase d'albâtre est trop cher pour mes économies. Il me le faut pourtant, ce mélange aux quatre parfums. De ses parfums, je baignerai ses pieds. Dans ses cheveux, je sécherai ses pieds. De ses lèvres, je baiserai ses pieds si beaux, si purs. Je sais, un tel parfum, c'est trop pour le repentir. Mais pour l'amour, c'est bien peu. Et si j'embrasse un jour sa religion, ce sera par amour pour lui. Et si j'arrive au martyre pour lui, c'est son amour qui m'aura inspiré. Car le désir, monsieur, embrase ma foi et l'amour, mon repentir. Et sans doute, mon nom sera symbole dans les siècles de ceux qui ont été sauvés, car ils ont beaucoup aimé. Et pour montrer qu'il ne parle pas que de l'Ancien et du Nouveau Testament, et que la mythologie grecque a aussi sa part, je voulais lire un poème sur Antigone. Antigone parle en faveur d'Édipe. Athénien, pourquoi ces regards curieux? Cet homme, c'est mon père, Édipe, grand roi jadis, qui désormais hante votre agora, blessé par le destin, loqueteux, aveugle avec son orgue déglingué. Athénien, chacune de vos oboles ajoute une fêlure à mon cœur. Les secrets de notre maison s'alourdissent de ce qui ajoute vos divagations. Laissez-nous donc, Combien de temps nous traînerez-vous de ci, de là, comme le gitan et son ours ? Tandis que les tragiques nous montrent au théâtre, nous assiègent pour savoir les détails et nous demandent pourquoi il n'a pu détourner le coup. Athéniens, cela ne vous suffit donc pas que mon père ait été poète, l'introducteur du symbolisme, dont l'épigramme, réponse au sphinx, a sauvé bien des vies parmi nous, sans parler du plaisir esthétique. Pourquoi fouillez-vous dans sa vie privée, à la recherche de complexes édipiens, d'amours illicites et de plaisirs que réprouve la morale courante ? Réponse au sphinx aurait dû vous suffire. Le reste aurait dû rester dans la pénombre. Après tout, il agissait à son insu. Et vous, vous agissez en toute conscience. Ce sont des poèmes extrêmement bien dessinés, magnifiques, comme des tableaux, comme des petites pièces de théâtre, à chaque fois.
Avec des anachronismes, évidemment.
Et bien sûr.
Qui font aussi leur charme. Il y en a d'extrêmement frappants dans d'autres poèmes. Tout naturellement, on passe d'une époque à l'autre.
Alors pour terminer, on ne doit pas terminer, mais j'ai pris parmi tous les poètes récents, plus récents, de date plus... qui sont encore... en pleine activité, parce que justement, Christianopoulos n'écrit plus, en tout cas plus de poésie. Nous parlerons demain avec Thanasis Hatzopoulos, puisque j'avais eu le grand plaisir de le citer quand tu avais fait ton... Là-dedans, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est que j'avais cité un poème de lui en rendant compte de ton anthologie. Parmi les poètes du premier tome de cette nouvelle anthologie qui prolonge, mais il était d'ailleurs dans l'anthologie, je trouve extrêmement intéressant... Yorgos Markopoulos.
Ah oui.
Il faut signaler, je n'ai pas amené le livre parce qu'il est un peu grand, que tout récemment est paru, j'en ai parlé dans le magazine, mais je le redis, un beau livre qui s'appelle Athènes, et où des poèmes de Markopoulos, traduits par Michel Volkovitch, en bilingue, sont publiés avec des photographies d'un photographe qui s'appelle Didier Benloulou et qui a fait un travail sur la Grèce d'aujourd'hui, un travail photographique extrêmement intéressant. Ça se trouve aux éditions de la Table Ronde et c'est très beau parce que le photographe a souhaité que ce soit ces poèmes-là qui figurent en face de son travail. Alors c'est une exposition qui tourne un peu partout en France, et qu'on peut voir, mais on peut aussi acheter ce livre de photographie.
Oui, qui montre le quart-monde grec. C'est-à-dire les déshérités, les immigrés, enfin tous les pauvres, on les voit dans les quartiers les plus pauvres de la ville, mais peints avec, saisis avec beaucoup de sympathie, d'amour et avec des couleurs extraordinaires.
Et je trouve, je vais lire un poème, juste le premier qui est là dans la table, parce qu'on peut lire aussi tout ce qui est dans l'anthologie Poésie Gallimard, que je trouve extrêmement intéressant parce qu'il entre en écho. Enfin, très souvent, on a l'impression qu'il ne recherche. On parlait de la crise hier. Il n'en parle pas directement, non. Mais au fond, tout ce qu'il dit renvoie à cette situation d'être poète aujourd'hui dans ce temps-ci et d'avoir à affronter l'état présent du monde.
Un monde qui souffre.
Un monde qui souffre. Alors, voilà, souvent ces personnages, d'ailleurs il fait parler, il y a beaucoup de poèmes, surtout dans Athènes, il y a un poème très beau où il fait parler au fond quelqu'un qui divague dans un bar, si je me souviens bien, ou dans une rue, et qui délire presque.
Hein. Que me demandes-tu là ? Moi je mélange tout maintenant.
Ah bon, d'accord. Bon, ça m'avait frappé. Il recueille, on sent qu'il écoute les voix qui sont autour de lui et que ce n'est pas seulement sa voix de poète qui parle, mais que le jeu qui parle dans le poème peut très bien être celui de quelqu'un qu'il a croisé ou qu'il voit dans un café ou autour de lui. Et cette pluralité du moi, il me semble que ce poème le reflète bien. Ça s'appelle « Mes anciens moi ». Où sont-ils tous ? Où ont-ils disparu ? Celui qui voulait jadis changer le monde ? L'enfant qui, tout petit, ne tenait pas en place, puis l'autre, adolescent par l'amour blessé, l'indompté de l'armée, dur, intrépide, et même l'arpenteur des rues flamboyant. Où sont-ils ? Où disparus ? Un vent les a enveloppés, soufflés, et celui qui a craint, vivant seul, l'insomnie, tenez, le voilà, qui déambule à présent dans les rues, chargé de pommes et d'un petit radiateur. trouve ce poème très saisissant, assez magnifique. Il y a aussi de très beaux poèmes d'amour chez lui. Et je voulais qu'on lise aussi, qu'on parle un tout petit peu, parce que demain, on lira de Thanasis Hatzopoulos le recueil qui est paru, enfin les lectures, je crois, concernent le recueil que j'ai eu le grand honneur de préfacer, qui s'appelle Cellule. Mais je voulais qu'on revienne un peu sur le premier livre qui a été traduit de lui. Alors en fait, ce n'était pas le premier, c'était le second, car j'ai la chance de posséder ceci, qui était un livre en quatre langues, grec, et puis des traductions en trois langues, italien, anglais et français. Voilà, ça fait quatre langues, voilà, grec, italien, anglais, français. Donc il était juste un seul poème, presque présent. Mais Le mort de même sang me paraît un livre assez extraordinaire. J'en ai reparlé d'ailleurs dans la préface de Cellule. On en a un petit peu parlé tout à l'heure en dialoguant ensemble ce matin, parce que ça reprend une légende populaire qui est celle du pont d'Arta. Je voulais demander d'ailleurs si le pont d'Arta que tu as traduit figure dans l'édition originale ou si tu l'as ajouté pour cette édition pour que le lecteur français connaisse dans le texte.
Je ne crois pas qu'elle figure dans l'édition originale de Thanasis.
Parce que c'est si connu.
Parce que c'est tellement connu, c'est pas la peine.
Voilà. Voilà. Mais il fallait le donner au lecteur français.
Oui, oui.
Alors c'est donc l'histoire de cette femme murée, enfin, qui est emmurée dans un pont. Comme d'ailleurs l'ont été ses deux sœurs dans d'autres ponts, et elle profère une malédiction, et puis elle revient sur sa malédiction, parce que son frère pourrait venir à prendre le pont, et si le pont s'écroulait de nouveau ou tremblait trop, il arriverait malheur à son frère, donc elle diminue avant de mourir sa propre malédiction. Alors le pont tremble, mais un peu seulement, c'est ça? Et donc le recueil est bâti comme le pont. Avec des arches, hein, chaque partie du recueil est une arche du pont. C'est un pont qui tremble parce qu'il y a un mort, ou une morte plutôt, dans ses fondations. C'est un livre de deuil. J'ai à peu près bien décrit les choses. Ben, l'auteur est là, mais le traducteur...
Tout à fait. Cette légende existe en plusieurs versions en Grèce et elle parcourt tous les Balkans, comme à peu près tous les contes et légendes et les chants populaires. On les retrouve un peu partout. Il n'y avait pas de frontières à cette époque, du moins pour ce genre de texte. Et ce recueil de Thanasis Hatzopoulos est l'un des plus construits qui se puisse imaginer, comme l'a dit Jean-Yves.
Alors, je vais juste en lire un petit extrait, parce que c'est un seul poème, donc il faudrait l'entendre en continu. Et ce qui me touche énormément et qui rejoint ce qu'on disait au début, c'est cette capacité qui est une des marques caractéristiques, je crois, de la poésie grecque, peut-être de la poésie en général, mais c'est spécialement présent en Grèce, que de montrer les morts leur présence dans la vie,
oui.
dans l'architecture des vivants.
Hein. Même quand ils sont emmurés, qu'on ne les voit pas,
voilà.
Ils sont encore là.
Sur cette question de l'invisible. Hein. Alors voilà le deuxième poème, enfin quelques extraits, mais le deuxième poème du recueil. « Car j'ai livré mon âme pour entrer aux lèvres des morts et peindre des paroles, eux, rouges, et dire ce qu'ils ne diraient pas, même s'ils n'étaient pas défunts. Lèvres froissées par le vent près des eaux froides comme une cascade séchée d'amertume, herbe exposée à la cime du froid qui se dessèche, repousse, où les morts de même sang, aux yeux vidés de sens, te contemplent et attendent un chemin par la lumière de leurs vivants éblouis. Là aussi, quelle pitié ! Un souffle tiède, araignée recopiant des pas du monde en bas jusqu'à celui d'en haut, entre figure et image, nous encercle. Caché comme une prière sur le rocher où blanchit hors du désert la nudité, même recueillement dans faim et soif, quand parcourant le passé elle se fendait et s'ouvrait comme une ombre, même recueillement comme si, à tout coup, elle devait rencontrer quelque chose de sacré qu'elle était seule à voir, que la vie détient, et cache. Ainsi revenait-elle du matin à la nuit dans le froid, comme impénétrable par la mort et l'eau, Gare à la crève, janvier va te tuer. Elle n'écoutait ni homme ni Dieu. Dans l'air glacé, intrépide, ondulant comme un cerf, ainsi passait-elle de la nuit à l'aurore, gonflant comme le levain pétri la veille, comme du pain son corps s'augmentait quand il cherche à calmer la faim de multitude. Juste quelques passages de ce grand poème qui est fondé sur vraiment un mythe vivant et, Thanassis nous l'a dit, vécu, revécu de l'intérieur et retrouvé, qui montre bien que l'ancrage populaire et la poésie savante se mêlent pleinement.
Ainsi que le passé et le présent.
Et le passé et le présent. Alors peut-être que pour terminer, tu peux nous dire quelques mots de cette, j'en ai déjà un peu parlé, mais de cette entreprise des poètes grecs du XXIe siècle. Et de ce que si, enfin, est-ce que tu repères des tendances, des choses spécifiques chez les plus jeunes, c'est-à-dire les gens dans la deuxième moitié de ces livres, le choix que tu fais d'auteurs qui pour certains sont encore très jeunes, il y en a qui sont nés en 88, si je ne me trompe, fin des années 80, donc ce sont des gens qui ont presque encore publié seulement dans des revues. Qu'est-ce qu'on peut remarquer chez eux? Qu'est-ce que tu dirais, toi qui lis tout, ou presque, ce qui se publie?
Mon cher Jean-Yves, tu termines par la question la plus gênante.
Impossible. Non, mais est-ce que on remarque une continuité ou au contraire est-ce que la révolte contre l'état présent des choses s'exprime directement, indirectement ou les deux? Est-ce qu'on verrait un tableau de la Grèce esquissé à travers ces jeunes auteurs?
Je n'ai pas cherché composant ces différents volumes, à faire apparaître des tendances, à classer ces poètes anciens ou récents dans des catégories, dans des familles, dans des écoles, des chapelles. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai l'impression que ce n'est pas ma tâche, que je ne serais pas bon pour le faire, et que surtout on a le nez collé sur l'événement et on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas. Là, je suis le nez dans le guidon, si vous voulez. Les poèmes arrivent et je vais vous tout avouer. La poésie, j'y comprends pas grand-chose. Si je la traduis avec acharnement, c'est que j'espère enfin y entrer. Vous voyez, cet homme-là, il vit dans la poésie, il baigne dans la poésie, il est poète, il la comprend, il la connaît parfaitement. C'est un homme des sommets, voilà. La poésie, c'est pour moi, c'est une montagne. Hein. C'est fascinant comme ces sommets qu'on voit d'en bas. Lui, c'est un chamois qui se roule dans les neiges éternelles. Et moi, je suis un piéton, je suis un homme des plaines qui regarde en haut, qui monte bien équipé, mais qui peut pas rester longtemps là-haut, qui redescend. Et c'est sans cesse Sisyphe, j'en parlais, je reviens toujours à la poésie.
Oui, mais alors Sisyphe a beaucoup soulevé le rocher quand même.
Oui. Et il n'a pas fini, j'espère.
Voilà.
J'espère. Mais en même temps, voilà. J'exagère, évidemment, je suis passionné par la poésie. Elle me résiste toujours et c'est toujours un combat amoureux, mais un combat quand même. Donc voilà, je suis gêné pour tenir sur elle un discours méthodique et raisonné. Je vais quand même essayer de répondre parce que
en fait, je peux préciser ma question, c'était de savoir si les recueils de 10 poètes forment des lignées en quelque sorte ou si ça n'a pas été ton souci.
Voilà. Non. Mon souci a été très pragmatique, a été de répartir une matière très riche de façon égale. Je n'allais pas mettre toutes les stars dans le premier volume et mettre rien que des petits jeunes dans le dernier, c'était assez suicidaire et puis c'était pas
éditorialement je t'approuve.
Voilà. Donc j'ai cherché la plus grande variété dans chaque volume.
D'accord.
D'abord, voilà. Alors, je veux quand même répondre parce que bon, après avoir fait mon petit cirque, il faut quand même que je sois honnête. Oui, il y a quand même certaines tendances c'est pas si facile que ça. Disons que oui, il y a chez ces jeunes poètes d'abord un changement d'orientation. Ils ne regardent pas tout à fait le même ciel. La génération précédente avait les yeux tournés vers des constellations francophones, alors que les plus jeunes sont plutôt tournés vers un ciel anglo-saxon, les poètes américains, anglais. Ils sont très rares à parler le français, ces jeunes, alors que Liondakis, Katsopoulos, Pascalis, tout ça sont des francophones admirables. Donc ça c'est déjà un changement, ça détermine un certain changement de couleur, on pourrait dire.
Forcément.
Oui. Mm-hmm. Et puis, ils sont jeunes, donc ils ont toujours envie de casser la baraque. Il y a dans ces jeunes poètes un bouillonnement, quelque chose d'un peu fracassant quelquefois, des images qui s'entrechoquent. Voilà. Mais, en même temps, il y a toujours une fidélité aux grands anciens. Il n'y a pas de table rase absolue. Quand on les questionne, ils mentionnent toujours des noms de grands aînés qu'ils vénèrent. Alors, malheureusement, ce sont des gens que nous connaissons peu. Il nous manque certains échelons pour bien connaître cette poésie. Par exemple, il y a un poète qui revient souvent dans les noms des poètes qui comptent pour eux, c'est Nikos Karouzos. Karouzos, moi j'ai publié un volume de ce poème de façon tout à fait confidentielle, il reste inconnu.
Voilà. J'ai pas tout pris. Hein.
Voilà. Et quelqu'un comme Sartouris aussi,
ah oui.
Même chose. Un poète vraiment merveilleux, d'une force extrême, voilà. On ne le connaît pas. Voilà. Bon. C'est-à-dire que Sartouris.
Deux recueils, hein, 2012.
Je vais quand même dire un mot, excusez-moi, la promotion.
En 2005.
Là. Oui.
Deux recueils de Miltos Sartouris.
Voilà, oui. J'ai un côté un peu VRP, excusez-moi, mais bon.
Voilà.
j'ai aussi une collection grecque sur Internet, aux éditions Publinet. Oui, parce que, vu le paysage éditorial actuel, il est impossible de caser certains textes difficiles, exigeants, la plus grande partie de la poésie et aussi les nouvelles. Les nouvelles, les éditeurs n'en veulent pas. Donc François Bon, créateur de ces éditions, m'a hébergé sur Publinet et j'ai pu, comme ça, entre 2008 et maintenant, publier 13 volumes immatériel, donc, qu'on doit se procurer en allant sur le site. Et parmi ces volumes, il y a des poètes, et en particulier un large choix de poèmes de Sartouris. Il y a Liondakis, il y a Ganas, il y a Pascalis, il y en aura d'autres, j'espère. Mais il y a une seule chose qui manque dans cette histoire, c'est les lecteurs. Les Français n'ont pas encore mordu à l'hameçon électronique et donc je peux vous révéler, ne le répétez pas aux malheureux poètes, les poèmes de Liondakis par exemple, il y en a pratiquement 200 pages, il a eu en 5 ans 7 acheteurs.
Oui.
Voilà pourquoi je suis passé au papier, parce que là on peut espérer passer de 7 à 14 par exemple.
Avec l'aide de quelques libraires, quand même. Et
avec l'aide de quelques libraires, oui. Et en allant au charbon, en contact avec le public. Parce que c'est là que vraiment on peut faire se rencontrer l'objet papier et le lecteur, oui.
Bon, alors un dernier poème, juste, j'ai pris le dernier, le plus jeune, qui est né en 1988.
Nikos Erinakis, voilà. 26 ans.
26 ans. Et c'est un poème que tu as trouvé sur Internet, apparemment, parce que tu dis que tous ces poèmes sont parus d'abord, en tout cas d'abord sur Internet ou dans des revues.
Oui, alors...
Alors j'ai trouvé intéressant.
Oui, des gens comme Liondakis n'ont pas Internet. La génération se fait un peu tirer l'oreille, mais les jeunes, évidemment, s'y sont mis complètement et nous correspondons beaucoup par téléphone et par Internet. Et il y a actuellement beaucoup de poèmes qui sont en ligne avant d'être publiés. Et dans mes choix, je leur demande de me faire un premier choix dans lequel je choisis moi, et il y a beaucoup de poèmes encore inédits.
Oui. Alors
Nikos Erinakis. Oui.
Alors j'ai pris le poème intitulé « La sauvagerie des choses » parce qu'il m'a semblé faire écho à bien des éléments de ce dont nous avons parlé, dont nous allons encore parler pendant ces rencontres. Tout est dans l'air, poussière d'or, tout tombe, rien ne monte. C'est une vitrine, un massacre, la sauvagerie des choses. Viens t'installer dans notre silence. Nous avons une tendance à voler, une maladresse fatale, jeunes à jamais, créant un certain style. Nous nous sommes consumés dans le vide. Il n'y a pas d'excuse, quelque chose ne va pas dans la liberté de l'échec. L'excès de lassitude signifie un excès de volonté, et la déesse blanche contribue. La notion de suite est une faiblesse de l'instinct. Je veux intervenir, mais je ne me presse pas, bien que tu sois un gouffre. Tantôt je hurle, tantôt je geins. C'est ma façon de conquérir les conquérants. Je mélange la forme du chaos. Je m'initie sans m'initier. Je suis une joie ingrate, équilibre ou rien. La vérité semble un pardon du réel. Quand le temps pur constituera la routine de nos secondes, j'oserai la non-violence et je suis sûr de vous effrayer davantage.
Belle fin. Et il y a aussi un poème dont je voudrais citer simplement le titre parce que ça nous permettra de
terminer. Vas-y, si tu souhaites en dire un autre,
j'ai pitié quand même de nos amis. Il y a l'avant-dernier poème s'appelle « L'avenir nous vivra ».
J'y avais pensé aussi. Voilà.
Let's go.
Merci beaucoup.
Et voici donc maintenant un extrait de l'isolement de Jean-Yves Masson, ici présent. « J'aurais mauvaise grâce à vous cacher, répondit l'officier dont on voyait moins que jamais les yeux, dissimulés par le reflet de la lampe sur les verres de ses lunettes cerclées d'or, puisque vous comprenez si bien notre tâche que c'était le devoir de la Sûreté Générale de vous faire surveiller. » Étant donné les fréquentations de votre père et les vôtres, qui sont pires encore, et compte tenu de ce que vous pouvez représenter pour ses étudiants ou ses amis. Je ne crois pas néanmoins qu'il aurait approuvé votre conduite. Vous voyez que c'est un hommage que je lui rends. Mon père n'a eu que le tort d'être jusqu'à la fin partisan de la République. Mais vous voyez, j'avais raison, quelle sotte j'ai été de ne pas me rendre compte plus tôt que tous mes faits et gestes étaient épiés et sans doute consignés dans des rapports. Ainsi donc, vous devez savoir si je suis marié ou non. En effet, nous soupçonnons que vous ne l'êtes pas. Mais enfin, il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent toujours procéder plus ou moins clandestinement au fin fond de la province. Et nous avons remarqué que vous y êtes allés souvent tous les deux ces derniers temps. Dans ce pays, le mariage religieux a force de loi, c'est heureux et malheureux en même temps. Mais on ne vous a pas suivi partout hors d'Athènes, rassurez-vous. Vous auriez risqué de vous en apercevoir. En tout cas, vous ne pourrez rien prouver sur le groupe G qui soit une atteinte à la sécurité de l'État. Sur le groupe lui-même, c'est à voir. S'il fallait tolérer tous ceux qui réfléchissent aux meilleurs moyens de mettre ce pays à feu et à sang, où irions-nous ? Mais votre ami Dimitri S., lui, en tout cas, est un révolutionnaire notoire. Vous n'allez tout de même pas nous dire que vous l'ignoriez. C'est plus qu'il n'en faut, mademoiselle. La suite de l'entretien me laissa stupéfait. Je découvris qu'en effet, cet officier savait parfaitement qui j'étais, qu'il connaissait jusqu'au nom de mes parents et en détail toute la branche grecque de ma famille, qu'il avait pris la peine de faire rechercher quels étaient ceux de mes cousins que je voyais le plus souvent. Ces fonctionnaires avaient-ils du temps à perdre ? Ils semblaient ne vivre que pour cela. Si mes cousins avaient été autre chose que de simples boutiquiers et de modestes paysans, nul doute qu'ils auraient été inquiétés eux aussi. L'officier considérait d'ailleurs que ma double nationalité, française et grecque, ne me permettait absolument pas de prétendre relever exclusivement des lois françaises, ce en quoi il avait sans doute raison. Il était clair pourtant que la légalité lui importait peu. L'interrogatoire tournait en rond. Qu'y avait-il à lui apprendre de plus ? Nous étions à sa merci. La nuit était tombée depuis longtemps. Je m'en avisai soudain en levant les yeux vers les soupiraux à présent sans lumière. Lorsque nous étions entrés dans ce bureau naturellement sombre, la lumière de l'après-midi filtrait encore péniblement par ces deux ouvertures situées au niveau de la rue, mais la différence était presque imperceptible à cause de l'éclairage artificiel qui fatiguait les yeux. Je regardais ma montre. Il devait y avoir 4 heures que nous étions là. Soudain, l'officier sembla décider de mettre fin à l'entretien. Il s'inclina légèrement vers l'avant comme pour se lever, mais tourna soudain la tête vers moi. Je voyais maintenant ses yeux briller derrière ses lunettes et son crâne chauve luire dans la lueur blafarde de la lampe. « Si vous le souhaitez, vous êtes libre, » me dit-il. « Vous devez quitter le pays dans les 24 heures. Nous n'avons rien à faire de fainéants tels que vous, et après tout, nous voulons l'un et l'autre éviter des ennuis, n'est-ce pas ?»« Mais pour vous, » ajouta-t-il en se tournant vers Marina, « il ne saurait en être tout à fait de même, vous l'avez bien compris. » Dites-vous bien qu'on vous fait une faveur exceptionnelle en vous signifiant seulement votre mise en relégation immédiate. Vous partirez dès demain en résidence surveillée. Interdiction vous sera faite de revoir toute personne de votre connaissance, y compris votre famille. On vous informera demain matin du lieu où vous serez conduite. Deux greffiers qui travaillaient jusque-là dans l'ombre du bureau sortirent. L'officier prit un air presque triste. J'eus le temps de regarder ce gros homme chauve, et l'idée me traversa que, sans son uniforme militaire et ses lunettes qui déformaient son visage, il n'aurait guère eu que l'apparence bonhomme d'un employé, d'un père de famille banal. « Croyez-moi, fit-il à mi-voix, ce n'est pas ce qui peut vous arriver de pire à l'un comme à l'autre. Mais il est impossible qu'il en soit autrement. » Toute protestation, tout recours à un avocat ou à des pressions venues de l'étranger ne pourrait qu'aggraver l'affaire, vu la menace de guerre qui pèse sur notre pays. Une procédure légale n'aboutirait qu'à votre emprisonnement. Marina me regarda. Allions-nous donc nous séparer ? Il n'était pas question pour moi de rentrer en France, de la quitter ni de la laisser partir en exil sans savoir comment la retrouver. L'officier n'était pas assez sot pour ne pas l'avoir prévu. « Je l'accompagne, évidemment, » dis-je. « Comment voulez-vous que je parte sans elle ?»« Je demande à être traité comme elle, tout simplement. »« Vraiment. Si votre désir, si c'est votre désir, je n'y vois pas d'inconvénient. L'essentiel est que vous abandonniez l'un et l'autre toutes vos activités antérieures et que vous demeuriez loin d'Athènes. » Ce qui veut dire, jeune homme, j'espère que je suis clair, que vous ne pourrez exercer en aucune façon votre activité de journaliste, que vous devrez signifier votre démission à votre journal de votre plein gré. Pas question du moindre scandale, vous m'entendez ? Votre courrier sera lu, celui que vous écrirez comme celui que vous recevrez. À la moindre infraction, vous seriez séparé d'avec cette demoiselle et immédiatement expulsé. Il jouait un personnage. Peut-être l'était-il vraiment, mais tout cela me semblait une comédie absurde et sinistre qui n'avait plus rien de réel. Moi-même, étais-je acteur ou spectateur ? Je l'ignorais. Le seul acte de ma volonté avait été ma décision de suivre Marina. Nous passâmes la nuit séparés, à la prison, dans des pièces surveillées qui n'étaient pas vraiment des cellules. Le lendemain, on nous ramena chez nous, au céramique, où l'on nous donna 2 heures pour rassembler nos affaires. Les policiers attendaient devant la maison. Un officier nous surveillait. Tout avait été fouillé en notre absence, de nombreux livres confisqués. Nous prîmes quelques-uns de ceux qui restaient, des romans, des anthologies, réflexes de survie. Il était difficile de savoir de ce qu'il y aurait là où nous allions. On nous avait avertis à notre réveil que nous partirions le soir même pour la Crète, et nous n'en savions pas plus. On pouvait aisément supposer que ce ne serait pas à proximité d'une ville. Ce n'était pas une surprise. Le régime de Metaxas envoyait là le plus grand nombre de ceux qu'il condamnait à la résidence surveillée, comme Mussolini le faisait dans certaines îles italiennes ou dans les régions les moins accessibles du sud. Metaxas, qui n'aimait pas la Crète à cause des convictions généralement républicaines de sa population. Venizelos était né en Crète et son corps y avait été ramené en triomphe quelques années plus tôt. voyait dans ce genre de condamnation une humiliation supplémentaire infligée aux Crétois. Une fois sur place, une autorité se chargeait de répartir les exilés en fonction des possibilités de surveillance, de façon à éviter les contacts entre eux. Nous traversâmes de nuit sur un bateau de ligne, mais à l'écart des autres passagers, toujours sous escorte. Ce fut une nuit sans sommeil, où je me souviens que nous parlâmes beaucoup. On disait que le dictateur était malade. Cette relégation, pensais-je, ne durerait pas très longtemps. Marina était plus pessimiste que moi. Si Metaxas mourait, le régime ne changerait pas. Les ministres se disputeraient le pouvoir quelque temps, mais la nature du gouvernement demeurerait identique jusqu'à l'émergence d'une nouvelle personnalité. Le roi craignait pour son trône et l'avenir de sa dynastie. Il voyait dans un régime fort un moyen de durer parce que lui-même était faible. Un vrai roi se fût comporté tout autrement.
Merci beaucoup pour ce voyage en poésie grecque et en poésie tout court. Merci Baptiste pour cette lecture.